Suivez Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous accompagne où que vous soyez pour que 2020 soit une excellente année. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les nombreux rendez-vous consacrés à la santé cardiaque reflètent une réalité sanitaire au niveau mondial. Ces pathologies du cœur et des vaisseaux constituent aujourd'hui sur la planète la première cause de mortalité. Infarctus, AVC, pontage, ces termes sont presque passés dans le vocabulaire courant, même si chacun d'entre nous ne sait pas forcément dans le détail ce qu'ils recouvrent, ce qui les provoque ou les favorise. Aujourd'hui encore, dans Priorité Santé, au moment où Paris accueille les 30e journées européennes de la Société française de cardiologie, nous attendons vos questions pour mieux comprendre à la fois comment le cœur fonctionne, comment la santé de nos artères dépend de notre mode de vie, mais aussi de notre hérédité. Quels conseils pour conserver une bonne santé cardiaque? Quels antécédents familiaux doivent conduire à des précautions particulières, à un suivi régulier? Et surtout, quels signes doivent pousser à consulter sans délai pour ne pas en arriver à des situations d'urgence, d'urgence cardiaque, pour lesquelles, on le sait, chaque minute compte? Dépistage, traitement, suivi, les maladies cardiovasculaires, comment les prévenir? On attend vos questions au 33 1 84 22 75 75. Et pour y répondre, aujourd'hui, deux invités en studio. Professeur Roland Guetta, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Également avec nous, professeur Ahmed Ouldeba El-Walati, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre national de cardiologie de Nouakchott en Mauritanie, professeur de cardiologie à la faculté de médecine de Nouakchott. Paris accueille donc ses 30e journées européennes de la Société française de cardiologie. On va donner la parole à nos deux spécialistes du cœur avec nous dans les studios de RFI. 30e édition, vous y participez également, messieurs. Et on joindra tout à l'heure l'un des membres du conseil d'administration de la Société française de cardiologie, le docteur Jean-Jacques Monsuez, chef du service de cardiologie à l'hôpital René Muret de Sevran en Seine-Saint-Denis. Et en fin d'émission, on va retrouver le docteur Catherine Solano, sexologue, qui répondra à la question Facebook d'un auditeur de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Roland Guetta, on assiste depuis plusieurs années à une hausse sensible de la fréquence de ces maladies cardiovasculaires dans des pays d'Afrique subsaharienne. Certains vont jusqu'à parler d'explosion. Est-ce que pour vous, ça reflète la réalité ou c'est exagéré?
Ça reflète la réalité parce qu'effectivement, nous sommes dans ce qu'on appelle la transition épidémiologique, où ces maladies cardiovasculaires sont en pleine progression, leur prévalence augmente. Bien que, effectivement, les maladies infectieuses restent quand même aussi un problème en Afrique. Donc, pour ces maladies cardiovasculaires, la prévalence est en nette progression. Quand on prend les statistiques hospitalières dont on dispose dans nos pays, on voit très clairement que ces prévalences ont nettement augmenté. Si je prends l'exemple de la maladie coronaire, où on a des données à l'Institut de cardiologie, on s'aperçoit que la prévalence hospitalière est passée de 2% au début des années 80 à aujourd'hui près de 20%. Vous voyez que ça a été multiplié par 10 en 30 ans. L'hypertension artérielle également a une prévalence qui reste importante, qui ne baisse pas, qui continue d'augmenter avec ses complications aussi qui sont toujours plus importantes, notamment l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque et les complications neurologiques, notamment les accidents vasculaires cérébraux. Donc c'est véritablement un vrai problème, ces maladies cardiovasculaires aujourd'hui en Afrique.
Un constat et des explications, professeur Guetta, comment on l'explique? On sait qu'il y a le mode de vie. Est-ce que ça suffit pour expliquer cette explosion qui a des conséquences très importantes, voire même tragiques en termes de mortalité?
Oui, clairement, il y a le mode de vie, il y a l'urbanisation, c'est vraiment ce changement de mode de vie dans les villes africaines. Ce changement donc qui modifie malheureusement de façon néfaste les habitudes alimentaires de nos populations. Il y a aussi le fait que ces affections sont aujourd'hui aussi de plus en plus diagnostiquées. Au départ, on se disait, on comprenait pas toujours pourquoi les gens mouraient, mais aujourd'hui, on sait qu'ils meurent de plus en plus de maladies cardiovasculaires. Donc, l'amélioration du diagnostic aussi permet de mettre en évidence cette importance de ces maladies cardiovasculaires en Afrique subsaharienne.
C'est deux choses combinées, donc changement de mode de vie, peut-être, donc on l'a compris, meilleur diagnostic. Du côté de la Mauritanie, professeur Ahmed Ould Eba El Walati, est-ce qu'on a comme ça une forme de liste ou d'idées précises sur les pathologies les plus fréquentes? Par exemple, vous, dans votre centre, vous soignez quoi et c'est quoi les interventions les plus fréquentes?
Effectivement, donc nous, en Afrique de l'Ouest, nous partageons les mêmes habitudes alimentaires, du Sénégal à la Mauritanie, au Mali, en Côte d'Ivoire. Les repas sont hyper salés. Et le mode de vie est pratiquement identique. Les gens sont passés d'un milieu rural à un milieu urbain ou semi-urbain, donc sédentarisés avec moins d'efforts et plus d'alimentation malsaine, si j'ose dire. Dans chaque coin des grandes villes en Afrique, vous trouvez des fast-food. Les bergers en Mauritanie n'utilisent plus les dos de dromadaires pour suivre les troupeaux. Ils ont des 4x4, donc les gens ne bougent plus. Même dans le milieu rural, ils sont un peu la mondialisation, c'est l'effet de la mondialisation. Donc, ce qui fait que la prévalence des maladies cardiovasculaires a émergé d'une façon, disons, spectaculaire. En Mauritanie, nous avons 27% de la population adulte hypertendue. Les maladies coronaires, nous avons les mêmes chiffres annoncés par mon collègue Roland à Côte d'Ivoire, à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Au Centre national de cardiologie, nous avons pratiquement les mêmes chiffres. 20% des malades hospitalisés, c'est pour des maladies coronaires. Donc, ce qui fait que la majorité des actions que nous menons au niveau de cet hôpital, c'est l'angioplastie coronaire, la chirurgie cardiaque. D'ailleurs, aussi, je reviens sur une pathologie qui est chronique, qui est au départ infectieuse, le rhumatisme cardiaque. Ça commence par une infection de la gorge et ça finit par un remplacement valvulaire parce que les réactions immunitaires vont entraîner des dégâts au niveau des valves. Et à la fin, c'est une chirurgie de remplacement valvulaire qui va se produire pour ces genres de patients.
Donc avec comme élément déclencheur, vous le disiez, une angine bactérienne.
Une angine maltraitée dès l'enfance. Donc les enfants avec une angine non traitée, des mal à la gorge, avec un germe spécifique qui est streptocoque, vont développer quelques années plus tard une maladie au niveau des valves qui nécessite une chirurgie lourde appelée remplacement valvulaire mitral. Donc, notre centre, si je complète, fait ce type d'opération régulièrement. Et en plus de cela, nous avons les pathologies coronaires que nous prenons en charge.
On a autour donc de cette table de professeurs, on va dire, de cardiologues de renom. Est-ce que malgré tout ce que vous savez, est-ce que malgré toutes les opérations, parfois très complexe que vous êtes capable de mener, il y a toujours une part d'information, de sensibilisation. Oui, on opère, oui, on fait de la chirurgie de haut niveau, mais en même temps, on continue de parler. Attention au sel, continuez de marcher. Est-ce qu'il y a en même temps cette double approche à la fois très technique et puis on va dire complètement naturelle, complètement pédagogique? Je me tourne d'abord vers vous, professeur El Walati. Est-ce que vous continuez de donner, on va dire, des bons conseils de bon sens?
Effectivement, donc les seuls conseils, en fait, les conseils, il faut d'abord changer les habitudes alimentaires, manger un régime méditerranéen, ce qui n'est pas disponible facilement chez nous, avec plus d'huile d'olive et moins de viande, alors qu'en Afrique, c'est surtout la viande en Afrique subsaharienne, et faire beaucoup d'activités physiques régulièrement, et dès l'enfance aussi. Il faut qu'au niveau des écoles, qu'il y ait des centres sportifs, que l'enfant doit développer une masse musculaire qui va lui permettre de faire un exercice physique permanent.
Même question pour vous, professeur Nguetta, même quand on opère, quand on est au bloc, quand on en sort, quand on voit ses patients, on leur donne des bons conseils les yeux dans les yeux?
Oui, absolument, parce que la prévention est finalement ce qui est le moins cher. Et donc, on insiste beaucoup pour éviter justement que ces affections cardiovasculaires surviennent. Donc, ça veut dire, comme le collègue le disait tout à l'heure, avoir une bonne hygiène de vie, contrôler sa pression artérielle, prendre sa pression artérielle pour savoir si on est hypertendu ou pas. C'est un geste simple, mais qui peut donner une information importante. Prendre en charge également son diabète. Le diabétique traiter correctement votre diabète, arrêter de fumer, avoir une activité physique régulière. Ce sont ces éléments-là qui vont éviter de développer ces maladies cardiovasculaires qui vont être beaucoup plus graves et qui vont finalement coûter beaucoup plus cher. L'idée, c'est d'éviter que les patients arrivent dans des situations d'urgence ou dans des blocs opératoires et avec des coûts d'intervention, des coûts qui deviennent très chers et parfois inaccessibles même à la majorité des patients.
Tout à l'heure, justement, on va aborder cette question de l'accès aux soins, de l'accès à la santé cardiaque. Mais tout de suite, on donne la parole aux auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Les auditeurs de RFI, on commence par partir en Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est chez vous, professeur Nguetta. Et Zakaria, avec nous. Zakaria en ligne, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour tous les auditeurs.
Deux médecins à votre écoute, rien que ça, Zakaria. Allez-y, posez votre question.
Ok, 43 ans et 80 kilos. Kilogrammes. Et depuis 5 ans de façon consécutive, quand j'ai fait une analyse de bilan, on me dit que le taux de cholestérol a augmenté. C'est-à-dire que la dernière date de décembre, je suis à 3,43 cholestérol total et LDL cholestérol de 2,97 grammes par litre. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le surpoids et le taux de cholestérol?
Et vous êtes inquiet par rapport à votre santé cardiaque, justement? Ça vous crée des inquiétudes quand vous voyez votre taux de cholestérol trop élevé?
C'est bien ça.
Professeur Nguetta, qu'est-ce que vous pouvez dire à Zakaria concernant ces analyses qu'il fait régulièrement?
Oui, déjà c'est bien Zakaria de faire des analyses chaque année pour pouvoir justement identifier ces risques cardiovasculaires et notamment les problèmes de cholestérol. Donc le cholestérol, vous avez un taux de mauvais cholestérol, donc il y a le LDL cholestérol qui est effectivement élevé. Parce qu'il faut savoir que dans le cholestérol, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc là, ce qui nous importe ici dans votre question, c'est le taux de mauvais cholestérol, de LDL cholestérol qui est à 2,97. Il faut, pour traiter ce mauvais cholestérol, d'abord commencer par un régime alimentaire. C'est fondamental pour réduire ce taux de LDL cholestérol. Et aussi, vous pouvez avoir recours à des médicaments. Donc votre médecin d'entreprise ou votre cardiologue pourra éventuellement vous prescrire en plus du régime alimentaire un médicament pour baisser ce mauvais cholestérol.
Mais quand on engage, on le sait très bien, professeur Nguetta, quand on engage un régime au long cours, c'est dur de le tenir, c'est dur de supporter ça. Et quand on a un régime, on va dire ivoirien, ça veut dire qu'on élimine quoi d'abord? On essaye de se passer de quoi comme mauvais aliments? C'est sûr, on va pas dire tous les jours on va manger une salade, ça c'est pas possible. On va manger quoi? On va retirer quoi? On pense notamment à tout ce qui va rajouter trop de mauvais gras, trop de mauvais sel.
Absolument. Il y a beaucoup de fritures dans notre alimentation en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut déjà commencer à réduire ces fritures-là. Il y a la banane qui est beaucoup frite en Côte d'Ivoire et qui est beaucoup consommée par les Ivoiriens.
La loco,
effectivement. Je crois que vous connaissez, connaissez bien. C'est délicieux. Mais attention
à ne pas en abuser.
Il y a aussi, il y a des mets bien connus qui sont à base d'huile.
Tout ce qui est sauce graine, par exemple, c'est très très gras.
La sauce arachide, je vois que Caroline connaît bien les plats ivoiriens. Et ça aussi, effectivement, on peut jouer là-dessus, réduire cette consommation-là pour réduire finalement le taux de mauvais cholestérol.
Zakaria, vous avez déjà changé des choses dans votre alimentation? Vous êtes prêt à faire certains efforts? D'ailleurs, est-ce que vous en discutez en famille? Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Il y a ce que dit le docteur et puis il y a ce qui suit à la maison. Il y a aussi que si on est amené à manger à l'extérieur de la maison, comment est-ce qu'on peut accéder à une bonne alimentation? Est-ce que des choses ont changé dans ce qui se prépare à la maison, justement, pour mieux manger et pour rester en meilleure santé?
Et évidemment, les choses ont changé à la maison. Je me suis mis sur un régime drastique. Le hic, c'est que par moment, on peut dire même le plus souvent, quand on mange en dehors de la maison, je veux dire, on n'arrive plus à contrôler son régime. Et sinon, à la maison, c'est bien contrôlé.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez changer? Vous en avez discuté avec votre médecin. Vous disiez pas trop le temps de faire de l'activité physique malgré tout. Est-ce que vous êtes prêt à faire un effort de ce côté-là?
Et évidemment, j'ai commencé, mais comme je le disais, on nous disait que pour une activité physique normale, il faut 30 minutes de marche par jour, ce qui n'est pas évident. On le fait peut-être une à deux fois dans la semaine maximum. Est-ce que ça pourrait nous aider?
Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Ngueta? Une ou deux fois par semaine du sport ou vraiment essayer de faire ça un petit peu davantage?
Oui, ce qu'on recommande, c'est au moins trois fois par semaine. Mais déjà, il faut commencer. Il faut commencer. Si vous êtes à deux fois par semaine, vous n'êtes pas loin de trois fois par semaine. Donc,
une bonne impulsion.
Il faut continuer à
persévérer. Voilà, Zakaria, on vous souhaite une très très bonne journée à Abidjan. On va partir pour Conakry, pour la Guinée, où l'on rejoint Saran. Bonjour, Saran.
Bonjour, Caroline.
Bonjour
à tous les auditeurs de RFI.
On est à votre écoute, Saran. Allez-y.
Bon, au fait, mon papa a eu un AVC, ça fait un an et demi. Allô, vous me recevez?
Oui, on vous entend très bien. Allez-y, je vous écoute. Allez-y.
Mon papa a eu un AVC, ça fait un an et demi. Mm-hmm. Du coup, il a eu le côté droit paralysé. Mais avec la rééducation, le pied, ça va et puis la bouche. Mais jusqu'à présent, la main, il a du mal à tenir même une cuillère. Est-ce qu'il faut continuer la rééducation? Et ma deuxième question aussi, actuellement, il a des problèmes de vision. Est-ce que c'est dû à l'AVC?
Donc, deux questions liées justement à ces séquelles de cet AVC, accident vasculaire cérébral qu'a eu votre papa, Saran. Je me tourne vers le professeur Ahmed Ouldelbael Walati. Première question, un an et demi après l'accident, après les faits, est-ce qu'il faut continuer la rééducation? Est-ce qu'il y a encore des choses qui pourraient s'améliorer ou ne pas se détériorer?
D'abord, bon, je suis pas un neurologue, c'est la rééducation et les séquelles neurologiques doivent être suivies par un neurologue. Mais actuellement, la situation de son père rentre dans le cadre de la prévention secondaire. Donc, la prévention primaire est déjà dépassée, la maladie est installée, et donc c'est un résultat ultime d'une évolution d'un risque cardiovasculaire global non surveillé. C'est certainement, le papa était hypertendu, il avait du cholestérol, un diabète, d'autres facteurs de risque qui ont amené à ce stade d'AVC. Donc il faut traiter correctement la cause principale, que soit l'hypertension artérielle, le cholestérol, lutter contre les facteurs de risque et continuer la rééducation comme étant une activité physique. Ça lui permet au papa de faire une activité physique régulière et ça peut donner quelque chose. Ça n'amène pas des dégâts supplémentaires, ça donne toujours des résultats bénéfiques à son état.
Et l'impact de cet AVC sur la vue du père de Saran?
Oui, effectivement, ça dépend de l'atteinte cérébrale, si elle a touché la zone responsable de la vision. Donc, peut arriver à une cécité brutale.
Et Saran, est-ce qu'on a diagnostiqué justement les causes de cet AVC chez votre papa? Est-ce qu'on a décelé, par exemple, de l'hypertension chez lui?
Ben, c'est par après qu'on a su qu'il est hypertendu.
Sinon, on ne le savait pas. Et maintenant, il prend des médicaments pour cette hypertension ou il est suivi au moins régulièrement par un médecin?
Oui, il est suivi au moins régulièrement par un médecin. Et puis, il a même son tensiomètre à la maison.
Mmh. Donc, maintenant, il fait bien attention à ça. Ben, on vous remercie beaucoup de nous avoir appelé, Saran. On vous souhaite une bonne journée à Conakry. On va partir pour très, très loin de Conakry, hein, pour Madagascar. Natacha. Natacha est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On est à votre écoute. Allez-y.
Allô?
Oui, on est bien là. Allez-y. D'accord.
J'ai 32 ans, j'ai fait 5 ans de vélo. Il y a un mois, j'ai été hospitalisée suite à une infarctus de myocarde. Avant cela, j'étais déjà allée chez le médecin plusieurs fois, mais à chaque fois, il me prescrit des tranquilisants et il ne prenait pas au sérieux. Un matin, je me suis réveillée avec de la douleur insoutenable dans la poitrine. J'avais du mal à respirer et il m'a fait faire de la radio et de l'ECG. Et j'étais admise le même jour. Aujourd'hui encore, je prends des médicaments pour le traitement, mais ces médicaments me donnent des maux de tête et bien d'autres malaises. Et même parfois, je ressens encore de la douleur. Alors, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui cause exactement cette maladie, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde. Et j'aimerais savoir, à part les médicaments que je prends déjà, s'il y a quelque chose qui peut empêcher qu'une nouvelle crise se produise.
Professeur Roland Guetta, cardiologue interventionnel, je me tourne vers vous. Déjà, une première chose par rapport à ce témoignage de Natacha, je vais résumer parce que la ligne n'était pas toujours très très bonne. Elle se plaignait, elle avait des douleurs, elle ressentait quelque chose et son médecin, j'ose le dire, il s'est trompé. Il a dit, Natacha, vous êtes angoissée et il n'a pas vraiment pris au sérieux. En tout cas, il n'a pas fait les examens qui auraient pu dire que c'était véritablement un problème cardiaque. Est-ce que ce sont des choses qui arrivent, professeur Guetta?
Oui, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, surtout que Natacha est une femme et elle est jeune.
Elle est jeune.
Et donc, c'est souvent...
Les facteurs de risque n'étaient pas forcément là.
Voilà, c'est là où, justement, souvent, on peut effectivement se tromper. Et malheureusement, elle a eu un infarctus du myocarde. Donc, chez elle, étant donné qu'elle est jeune, il faut, au-delà de la cause la plus fréquente de l'infarctus du myocarde, qui est l'athérosclérose coronaire, c'est-à-dire que ces facteurs de risque vont finalement altérer la paroi de l'artère qui va finir par se boucher. Chez elle, étant donné son âge, il faut essayer d'éliminer les autres causes que l'athérosclérose. Donc vraiment, si possible, déjà faire une coronarographie pour regarder les artères du cœur de Natacha, pour voir un peu s'il y a des lésions coronaires ou pas, parce que
c'est un examen qui est assez profond, hein, qui est assez lourd. Donc c'est quelque chose, on est hospitalisé quand on le fait, et c'est pas forcément accessible partout.
Absolument,
hein,
malheureusement, voilà. Une coronarographie où on peut aussi faire un autre type d'imagerie. En tout cas, il faut voir ses coronaires pour s'assurer que ses coronaires sont normales ou pas, parce que ça peut permettre déjà d'avoir une orientation sur l'étiologie de son infarctus du
myocarde. Parce que Natacha se plaint encore de douleurs. Elle dit qu'elle a encore mal, elle a encore des maux de tête. Ça veut dire qu'elle a encore... Peut-être que c'est autre chose aussi, on ne le sait pas. Mais en tout cas, elle ne se porte pas très bien aujourd'hui à 32 ans.
Absolument. Et donc, c'est vraiment préoccupant. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument faire le point de ces lésions coronaires. Parce que tant qu'on n'a pas l'assurance d'une lésion ou pas de ces coronaires, ça peut impacter sa prise en charge thérapeutique.
Donc vraiment, retourner voir un spécialiste et engager des recherches plus approfondies pour avoir un bon tableau de son état de santé, c'est très important.
Absolument. À la fois ce diagnostic de l'infarctus et puis aussi l'étiologie de cet infarctus myocarde.
Sur l'origine et sur la situation où elle en est exactement aujourd'hui. Voilà. Très, très bonne journée à vous, Natacha, à Madagascar. Et bon courage, justement, face à ces problèmes de santé. On va rejoindre au Nigeria, à Ibadan, Bakari, qui est en ligne avec nous. Bakari, bonjour.
Oui, bonjour, madame.
On est à votre écoute, allez-y.
Oui, je suis âgé de 42 ans. Je suis diagnostiqué hypertendu depuis 6 ans. Donc, je suis sous contrôle médical et je pratique du sport. Mon inquiétude est de savoir si cette prise de ces médicaments anti-hypertenseurs n'auront pas d'impact sur d'autres organes.
Question sur les effets secondaires. Professeur El Ouallati, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est vrai, quand on est hypertendu, quand on en a besoin, le traitement, c'est tous les jours. Est-ce qu'on a recensé justement des effets sur la santé qui ne seraient pas forcément espérés, attendus?
Effectivement, l'inquiétude de Bakari est légitime parce que la médecine ne doit pas nuire. Donc ça, c'est un principe. Il ne faut pas donner un médicament qui va rendre la situation pire ou aggraver ou toucher d'autres organes. Mais il faut faire un équilibre entre les bénéfices et les risques. Le risque de l'hypertension artérielle est très élevé, il est certain. Le risque des effets secondaires des médicaments, il est potentiel et il est mesurable. Donc je recommande à Bakari de prendre ces médicaments et de suivre le contrôle régulier. Il y a 5 classes thérapeutiques qui sont recommandées par la société savante. Ils sont sûrs. Il y a des contrôles réguliers de la fonction rénale, des fonctions hépatiques, du diabète, de l'uricémie, des l'ionogramme à faire d'une façon régulière tous les 3 mois la première année, après tous les 6 mois, afin de mesurer les risques potentiels des effets secondaires des médicaments. Mais quand même, le risque de l'hypertension, il est certain, il est plus grave que le risque de prendre des médicaments.
C'est ce qu'on appelle l'effet bénéfice-risque. Il faut bien comprendre pourquoi on a une ordonnance, mais en même temps, en l'expliquant au patient, ça lui permet de mieux accepter ce traitement au long cours. Voilà, Bakary, pour la réponse. On vous souhaite une excellente journée au Nigeria. Tout à l'heure, on va reprendre encore quelques auditeurs en ligne. Mais si vous le voulez bien, on va tout de suite retrouver le docteur Jean-Jacques Monsuez, chef du service de cardiologie de l'hôpital René Muret de Sevran en Seine-Saint-Denis, membre de la Société française de cardiologie à l'occasion de ces journées européennes. Bonjour, docteur Monsuez.
Bonjour, Caroline. Bonjour, Ahmed. Et bonjour, Roland. Je dois dire que je suis l'émission depuis le début. J'écoute. J'ai l'impression de me reposer 5 minutes et je suis d'accord avec tout. Vraiment, c'est une belle mission.
Alors, fini le repos. Maintenant, à vous de parler, docteur Monsuez. Alors, ces journées de la cardiologie, on le sait, chaque année, de nombreux rendez-vous nationaux, internationaux pour justement discuter de toutes ces pathologies, mais aussi, peut-être là avec vous, on pourrait parler des innovations, puisqu'avec les auditeurs, on parle des problèmes de santé. Tout à l'heure, on va parler de l'accès à la santé en Afrique subsaharienne, à cette santé cardiaque. En matière d'innovation, qu'est-ce qu'on voit dans le CRU 2020?
Alors, l'évolution 2020, elle est double. On va dire, c'est un peu tout le temps comme ça. Il y a l'aspect technique, avec une puissance maintenant des approches interventionnelles, c'est-à-dire de la chirurgie, des traitements avec des cathéters. On monte des tuyaux dans les artères, dans les veines, et là on peut traiter les coronaires, on peut traiter les troubles du rythme. Tout à l'heure, Roland parlait de la coronarographie. Mm-hmm. Toutes ces techniques sont vraiment ultra efficaces. Et puis le deuxième point, en rythmologie aussi, elles sont efficaces. Le deuxième point, c'est l'organisation des prises en charge. À partir de recommandations, à partir de « c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux de faire tel traitement, tel autre ». Et ce qu'on voit maintenant dans la diffusion de ça en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, c'est finalement la même organisation. Là, vous avez un des représentants de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le directeur du Centre national de cardiologie de Nouakchott, donc des centres de référence. Et puis, ce que vous avez très bien dit vous-même, et des cardiologues de terrain, parallèlement, et donc une organisation qui est la même qu'en Europe, qui est la même que partout. Un centre de référence, des cardiologues de terrain hospitaliers ou libéraux, la prise en charge des malades, avec finalement une similitude. Et si on regarde finalement votre émission, elle est un des facteurs de cohésion de la cardiologie francophone. Il y a environ 2500 ou 2000-2500 cardiologues francophones en Afrique, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Et la SFC est avec eux. À notre congrès, on a 8000 participants et 15% à 20% environ qui viennent d'Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Et on s'organise avec des organisations qui sont semblables et on a des travaux qui sont communs. Notamment à la fois sur les valvulopathies, on est en train de faire un registre sur les valvulopathies, mais sur des choses plus, je dirais pas plus simples, mais plus fréquentes, comme l'hypertension artérielle sévère, et dans des travaux qui sont très 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 performants. On a discuté à la session du groupe de travail de cardiotropical ce matin, ce qui a été considéré par la revue Hypertension, qui est une revue américaine, comme le meilleur article de l'année 2018, c'est un article qui est fait autour de Xavier Jouven et de son African Research Network par 17 pays africains. Et ça a été reconnu comme le meilleur article de ce journal mondialement connu.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, docteur Jean-Jacques Monsuez. Justement, cette spécialité de la cardiologie, on va retrouver nos auditeurs dans quelques minutes, mais j'aimerais me tourner vers vous, professeur Nguetta, professeur El Ouallati. Avant, on avait l'image un peu du cardiologue inaccessible, le spécialiste, celui qui ne parlait pas justement de tout ce qui était bien-être, de tout ce qui était conseil. Est-ce que ces choses ont changé? Est-ce qu'on est parti du technicien aujourd'hui, même si vous le restez, pour revenir vers le praticien? D'abord vous, Roland Guetta, est-ce que c'est quelque chose, par exemple vous êtes professeur, vous enseignez, que vous transmettez à la future génération de cardiologues?
Oui, absolument. Bon, faut dire qu'au début aussi, il y avait très peu de cardiologues en Afrique. La formation de cardiologues, heureusement, a connu une progression importante ces 10 dernières années. Quand je prends par exemple la Côte d'Ivoire, qui est une école ancienne de formation de cardiologie, on formait 5 à 6 cardiologues par an. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de cardiologues,
les choses
une
ont
dizaine
changé.
De pays. Mmh. Voilà. Donc, il y a plus de cardiologues. Donc, ils sont plus proches ils commencent à être de plus en plus proches des populations et donc être de plus en plus accessibles. Et donc, ce message de cardiologie, de prévention pour la prise en charge de ces maladies cardiovasculaires commence petit à petit à arriver auprès des populations.
Même question pour vous, professeur El Walati. Est-ce que le cardiologue, le super médecin, a fini en quelque sorte d'être un super technicien pour redevenir davantage, c'est de la provocation mais j'assume, davantage humain ?
Oui, effectivement, nous avons un rôle humain, un rôle de contact direct avec le patient à jouer. Nous avons un effort de communication. J'avoue qu'effectivement, nous avons encore un effort à faire en termes de communication avec le patient. Il ne suffit pas de prescrire une ordonnance, mais il faut donner des conseils, il faut expliquer aux malades, prendre un temps pour communiquer, mieux communiquer avec nos patients. Et alors, il faut aussi signaler que les moyens actuels de communication, les multimédias, les réseaux sociaux ont aussi participé avec des groupes WhatsApp avec des patients qu'on envoie pour échanger le taux de cholestérol, les prises tensionnelles. Et ça aide dans la prise en charge et les suivis.
Pour avoir un meilleur suivi, on va justement rester en contact avec ces auditeurs qui, dans certains cas, sont des patients qui vont voir leur médecin, comme au Congo, à Pointe-Noire. Michael, avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, une question qu'on n'a pas abordée encore qui concerne la santé cardiaque, et vous allez justement nous la poser, c'est le rapport entre la façon dont notre cœur se porte et la façon dont on dort. Allez-y, Michael.
Oui, donc j'ai 38 ans pour 108 kilos et ça fait au moins 6 ans de cela. Donc je constate que parfois quand je dors profondément, il y a un moment que je n'arrive plus à respirer. Donc là, ça se passe pour quelques secondes. Donc je dois faire des mouvements vraiment pour me réveiller.
Excusez-moi, Michael, je vous interromps. Vous avez dit combien de kilos ?
108.
Donc vous 108. Êtes en surpoids, hein, même si vous êtes de forte, de grande stature, vous mesurez combien ?
1m76.
Donc vous êtes vous avez une IMC largement supérieure à ce qui est conseillé pour être en bonne santé. C'est bien ça. On peut dire que vous êtes en surpoids.
Oui, c'est ça.
Et vous avez des problèmes de sommeil, c'est bien cela?
Oui, des problèmes de sommeil. Donc souvent quand je dors profondément, et il y a des moments parfois je n'arrive plus à respirer. Et pour trouver aussi le sommeil, parfois c'est difficile. Et il s'avère que je suis hypertendu. Donc je voulais savoir est-ce que c'est lié à l'hypertension ou bien... Et la deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire si c'est le cas?
Alors moi, je vais vous donner la parole tout de suite au professeur El Walati. J'ai déjà une petite question de journaliste à vous poser. Est-ce que votre médecin vous a donné des conseils en matière de contrôle de votre poids ?
Oui, on m'avait dit de beaucoup pratiquer le physique.
Et vous le faites ? Vous le faites, Michael ?
Oui, je le fais, mais vraiment pas constamment. Il y a des moments parfois, je fais des arrêts.
Vous arrêtez de faire de l'activité sportive. Vous le faites combien de fois par semaine? Vous pratiquez quoi comme activité?
Oh, juste les abdos et un peu.
Professeur El Walati, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, hypertension, surpoids et puis des problèmes pour dormir.
Alors, je pose une question. Michael, est-ce que vous ronflez la nuit?
Oui.
Ah oui, c'est ça. Donc, vous avez ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Et c'est une maladie qui, en fait, c'est une prédisposition à l'hypertension artérielle. C'est une maladie ou une situation clinique où les patients obèses qui ronflent et qui sont prédisposés à développer une maladie cardiaque, et une hypertension artérielle et un trouble du rythme cardiaque comme la fibrillation auriculaire. Donc, vous avez un risque supplémentaire en plus de surpoids, de l'hypertension artérielle. Et l'apnée du sommeil a des tests de sommeil qui doivent se faire dans votre pays. Et il y a des appareils, des CPAP, des machines qu'on peut mettre dans la bouche pour mieux respirer la nuit, avoir plus d'oxygène et ça améliore la qualité de votre sommeil, ça va réduire le poids, ça va vous aider à réduire le poids et contrôler l'hypertension artérielle. Donc, je vous conseille de faire les tests de sommeil et de s'approcher à un spécialiste, un pneumologue ou un cardiologue qui a une capacité de soigner ce type de pathologie.
Et de faire cette exploration. Michael, est-ce que vous vous sentez prêt, vous, aujourd'hui, à changer des choses dans votre mode de vie, manger différemment, bouger plus, peut-être manger un petit peu moins lourd le soir? Est-ce que vous êtes prêt à ça ou pas encore? Parce que des fois, ça prend du temps dans la tête hein, pour dire « bon, je me sens pas bien dans mon corps, faut que je fasse des changements », ce qu'on appelle les bonnes résolutions. Est-ce que vous êtes prêt à ces résolutions ou pas tout à fait?
Oui, en fait, je peux être prêt, mais pour l'instant, d'abord, je ne vais pas voir mon médecin parce que pour l'instant, du côté financier, je suis un peu
C'est difficile.
Au bout du rouleau, donc, donc voilà pourquoi je...
En même temps, il y a des conseils qui ne coûtent pas cher. Quand on change certaines choses dans son alimentation, par exemple, si on est habitué à boire des sodas, boire moins de sodas. Si on met certains bouillons dans la cuisine, arrêter ces bouillons, mettre moins d'huile et puis surtout ne pas manger de fast-food ou de sandwich tout le temps à l'extérieur. Est-ce que c'est des choses que vous faites? Est-ce que c'est des choses que vous pouvez changer?
Oui, ça, je peux, oui. Ça change.
Vous pouvez, mais est-ce que vous en avez envie?
Oui, j'en ai envie, oui.
Eh ben, on vous encourage et puis quand vous aurez un petit peu de sous pour aller voir un médecin, bien sûr, consulter pour justement prendre de meilleures habitudes pour mieux dormir et puis tout simplement pour mieux vivre. Hein. On vous souhaite une très très bonne journée, Michael, au Congo. On va prendre un dernier auditeur, c'est Joseph qui est à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Bonjour, Joseph.
Bonjour, bonjour.
Allez-y, on vous écoute, Joseph.
Ok, je suis Valine, je vous écoute aussi.
Allez-y, racontez-nous ce qui vous arrive.
Ok, c'est depuis 2017 là que j'ai fait une rechute. J'ai vu le cardiologue, il m'a prescrit un produit Colossar Bank. Quand je prenais le produit, bon, je sentais un effet secondaire là, il y avait une douleur atroce au niveau de deux tempes, donc la tempe gauche et la tempe droite. Bon, j'ai continué à prendre les produits malgré les douleurs, mais je sentais quand même un petit soulagement au niveau des douleurs cardiaques, mais les effets secondaires devenaient de plus en plus insupportables. J'ai vu mon médecin, il a essayé de prescrire d'autres médicaments, mais ça n'allait pas. Jusqu'à tel point que j'étais obligé d'arrêter puisqu'il n'y avait pas de changement.
On vous avait diagnostiqué quoi précisément? Votre cardiologue, il avait dit, vous souffrez de quoi, Joseph?
Ok, après échocardiaque, on m'avait dit qu'il y avait gonflement du ventricule gauche.
Et aujourd'hui, vous voyez encore un cardiologue?
Ok, après un certain temps là, je dis arrêter puisqu'il n'y avait pas de soulagement à côté effet secondaire là. Après un temps, j'ai commencé encore à sentir les douleurs là cardiaques. Alors j'ai fouillé dans mes ordonnances là des années précédentes. Là, j'ai trouvé qu'on m'avait prescrit mon diurétique. Alors je prends maintenant mon diurétique. Mon diurétique soulage quand même. Mais j'ai constaté qu'après une période de 3 semaines de la prise de mon diurétique, les mêmes effets de tempe là recommencent.
Joseph, je vous arrête. Vous avez repris. Joseph, je vous arrête. Vous avez pris une vieille ordonnance et vous êtes allé acheter où ce médicament? Parce que là, vous prenez une vieille ordonnance sans aller voir le médecin. Vous reprenez un médicament sans savoir si vous en avez vraiment besoin. À ce moment-là, on appelle ça de l'automédication et j'imagine qu'en matière de cardiologie, ce n'est pas vraiment recommandé. Vous êtes allé acheter où ce médicament?
Ok, c'est un médicament qu'on m'avait prescrit. Bon, c'était en 2012 en Zambie, là. C'était toujours pour le problème cardiaque.
Oui, mais en 2012, là on est en 2019, 2020 déjà. Donc ça fait 8 ans, la situation a pu grandement changer depuis. Professeur Roland Guetta, Joseph, merci beaucoup de votre appel. C'est très intéressant ce que nous dit Joseph. Il dit deux choses d'ailleurs qui sont évidentes. Il ne peut pas voir un cardiologue faute de moyens, c'est ça le principal. Parce que bien évidemment, si on va chercher des vieilles ordonnances, c'est pas parce qu'on en a envie. C'est parce que des fois, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui ?
Bon, effectivement, c'est vrai qu'il n'a pas accès à son cardiologue, mais c'est déjà de contrôler aussi sa pression artérielle. Est-ce que sa pression artérielle s'est normalisée ou pas ? Parce que manifestement, Joseph est hyper tendu, et si sa pression artérielle n'est pas contrôlée, il peut avoir des symptômes comme ceux qu'il décrit, notamment des maux de tête. Donc c'est de déjà contrôler sa pression artérielle. Ça, il peut le faire dans une infirmerie, auprès d'un médecin généraliste.
Il peut aller à la pharmacie, il peut y avoir un tensiomètre, voilà. Il peut aller voir, et ça coûtera pas cher. En tout cas, ce que nous disent un certain nombre d'auditeurs, et ça va être notre conclusion, parce que hélas le temps passe très très vite, c'est que il y a des problèmes au niveau justement de l'hygiène de vie, mais s'il y a un problème peut-être malgré tout, c'est l'accès aux soins. Professeur El Walati, même si les choses s'améliorent en Afrique subsaharienne, on peut dire qu'encore aujourd'hui, aller voir un cardiologue, c'est pas une chose facile quand on vit en Afrique ou qu'on soit sur le continent, peut-être moins en Afrique du Nord, mais en tout cas en Afrique subsaharienne.
Effectivement, le nombre de cardiologues par habitant est très réduit en Afrique subsaharienne. Et donc, ils sont concentrés dans les grandes villes. Mais ce n'est pas juste l'accessibilité de la cardiologie, de la consultation qui pose un problème, c'est surtout l'accessibilité aux soins. Parce que la pathologie cardiovasculaire coûte très cher. S'il y a un geste de cardiologie interventionnelle ou de chirurgie cardiaque, ça dépasse largement.
C'est lourd,
c'est autour de 2000 à 3000 à 4000
euros. Pour beaucoup, c'est impossible à payer. Même quand il y a la solidarité familiale, ce n'est pas évident.
C'est sur la solidarité familiale qu'en Mauritanie, au moins, que ça compte beaucoup. Mm-hmm. Parce que l'assurance universelle et l'assurance maladie, elle touche que 20% de la population. Et donc ici, j'appelle au développement de cette assurance maladie universelle qui va permettre à tout citoyen d'accéder financièrement aux soins.
La santé publique, c'est aussi de la politique, c'est d'ouvrir justement cet accès aux soins au plus grand nombre. Professeur Roland Guetta, quand on a le plateau technique pour opérer dans les meilleures conditions, c'est bien, mais encore faut-il que les personnes puissent le financer.
Oui, déjà, comme vous l'avez dit, avoir accès. Nous, ça fait aujourd'hui, je pense qu'on a, en Côte d'Ivoire, on a 4 cardiologues pour 1 million d'habitants, c'est très peu. Mmh. Donc l'accès aux cardiologues est difficile. Et effectivement, l'accès aussi aux soins, au financement, est une vraie problématique à résoudre.
Une problématique sur laquelle on revient régulièrement dans Priorité Santé. Merci beaucoup à tous les deux pour ce double éclairage. Merci aussi d'avoir répondu à toutes ces questions de nos auditeurs. Professeur Roland Guetta, cardiologue interventionnel à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Et vous, professeur Ahmed Ould Eba El Walati, directeur du Centre National de Cardiologie. Cardiologie Nouakchott, professeur de cardiologie à la faculté de médecine dans la capitale mauritanienne. C'est le moment de parler santé et sexualité dans Priorité Santé avec vous, docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous nos auditeurs.
Alors vous êtes sexologue et je vous propose de répondre, hein, si vous le voulez bien, à une question qui nous est posée par Patience, un auditeur qui vit au Congo-Brazzaville. Cette question Facebook est la suivante. Catherine, je vis avec ma petite amie depuis un an déjà. Patience explique n'avoir fait l'amour qu'une seule fois avec elle. Il est son premier partenaire, hein, de cette jeune femme. Patience qui souhaiterait savoir comment lui donner davantage envie de faire l'amour. Et il précise, c'est important, je le cite, « Elle a du mal à me supporter lors de la pénétration ».
Oui, alors ce que je pense, c'est que ce que décrit Patience, ça n'a pas l'air d'être un manque de désir de la part de son amie, mais plutôt une difficulté à la pénétration. Alors je peux donner plusieurs conseils. Tout d'abord, je pense qu'il faut échanger avec son ami sur la sexualité. Parce que dans beaucoup de familles, on parle de sexualité aux enfants, hein, comme quelque chose de sale, de dangereux, de moche, d'interdit. Et du coup, en grandissant, en devenant une jeune femme, on peut avoir du mal à trouver ça agréable quand on est en couple, vu tout ce qu'on vous a appris. Donc si Patience peut lui dire que la sexualité, quand on s'aime, c'est beau, c'est joyeux, eh bien, ça pourra améliorer la situation et compenser cette ambiance familiale, si c'est le cas. Le but, petit à petit, c'est de lui faire changer de point de vue, mais il faut justement de la patience pour ça.
Et puis, dans le cas que vous nous décrivez, enfin ce qu'a dit Patience, est-ce que vous conseillez à son ami de consulter?
Oui, alors bien sûr, il faut commencer par consulter, même en parallèle de faire ce que je dis, pour une bonne raison, c'est que elle peut très bien avoir un problème local, c'est-à-dire un hymen par exemple trop épais, ou une petite lésion, ou une bride, comme on dit, et donc parfois il y a une petite opération à effectuer. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est faire l'amour quand même, même si elle n'arrive pas à supporter la pénétration, mais le faire sans pénétration. Parce qu'on peut faire l'amour quand même, parce que le but, c'est de permettre à son ami de devenir plus à l'aise avec son corps et avec celui de son amoureux, et d'avoir moins peur de la pénétration, et d'aimer faire l'amour. Et donc, je tiens à le préciser, on peut faire l'amour sans pénétration. Ensuite, quand le patient sentira que son ami est plus à l'aise, il faut commencer, avant même de faire des pénétrations, faire des petits massages de la vulve et des petites lèvres, des petits contacts, de manière à habituer cette zone du corps à un contact et qu'elle s'aperçoive que c'est agréable. Quand on a fait ça, souvent plusieurs semaines, hein, je précise, c'est pas une fois, il faut du temps souvent pour apprivoiser le corps. Petit à petit, on fera un essai de pénétration et donc 1 mm, 2 mm, de plus en plus, de manière à ce que le vagin se dise, ben, finalement, c'est agréable et c'est pas agressif.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire de plus, hein, docteur Catherine Solano, à Patience, sur la suite, hein, de sa relation amoureuse?
Voilà, alors par la suite, une fois que le vagin de son ami, la zone vaginale, accepte une pénétration au doigt un petit peu, à ce moment-là, c'est le dernier temps, on peut faire une pénétration sexuelle, c'est-à-dire avec le pénis, mais surtout, il ne faut pas essayer, d'abord, il faut faire beaucoup de préliminaires avant, beaucoup de caresses sur le corps pour préparer, les préliminaires, ça sert à ça, à préparer le corps d'une femme à avoir une bonne lubrification, pas seulement ça, mais à se relaxer dans la zone génitale, ça sert à un homme aussi à relaxer ses artères pour qu'il ait une bonne érection. Donc il faut ce temps-là qui est encore plus important chez une femme qui a un blocage. Et par la suite, bah, faire une pénétration, mais ne pas chercher à aller très loin au début, de manière à ce que son corps ne se rebiffe pas. Alors,
ce qu'on comprend quand vous parlez, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'urgence. Non. Il faut y aller pas à pas, tout doucement.
Voilà, et c'est drôlement important, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, y compris des femmes, qui disent à leur partenaire, vas-y, force, on va y arriver. Et ça... Eh bien, quand on fait ça, ça dure 10 fois plus longtemps pour y arriver. Parce que le corps qui a déjà peur d'avance, il a encore plus peur.
C'est une résistance.
Et voilà, il va résister encore plus. Alors que si on y va doucement, ça peut sembler long. Mais en réalité, c'est beaucoup plus rapide. Et j'ajoute une chose, c'est que on a déjà eu sur RFI plusieurs fois un auditeur qui nous disait, ou je l'ai vu en consultation aussi, un homme qui disait, moi, mon ami était très bloqué, et petit à petit, je l'ai débloqué, ça a mis 6 mois, 8 mois, 10 mois, parfois 1 an, et je suis très très fière d'avoir réussi, maintenant elle est épanouie et ça va très bien. Donc je voulais dire que, il y a des hommes qui vont dire, oh, c'est pas marrant de faire ça, et ben, c'est une joie, une fierté, surtout quand, bien sûr, quand on s'aime et qu'on se dit, grâce à moi, elle s'est épanouie, franchement, c'est quelque chose de magnifique.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, et à très très bientôt, hein, dans Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la prépare et la réalise. Demain, coup de projecteur sur la santé des yeux des enfants, ophtalmologie pédiatrique. On attend bien sûr toutes vos questions, 33 1 84 22 75 75. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner où que vous soyez pendant ces 366 jours. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.